France Culture.
Cher Book Club, cher Jean-Pierre Lefebvre, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai commencé ces poèmes de Tchernovitz de Paul Celan. Et vous n'imaginez pas le cadeau que vous nous faites. Se dire qu'en 1938, il a 18 ans, et déjà là, cette force incroyable du texte, la jeunesse et l'amour à la boutonnière, tandis que le sentiment du tragique est là, l'ombre des camps aussi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Tchernovitz, c'est le nom d'une ville longtemps autrichienne puis roumaine, un temps soviétique puis rattachée à l'Ukraine. C'est le nom d'une ville qui n'est plus exactement celle dans laquelle Paul Celan naît en 1920 dans une famille juive germanophone. Pourtant, c'est ce nom sous lequel se réunissent les poèmes composés dans sa jeunesse entre 1938 et 1945, dont beaucoup en camp de travail obligatoire, tandis que ses parents sont déportés et meurent dans un camp nazi. Tchernovitz, qui n'existe géographiquement plus, existe poétiquement, y compris dans sa rime glaçante avec Auschwitz. Todesfugue, certainement le plus fameux de ses poèmes, est en germe dans ses premiers écrits, qui sont traduits et publiés pour la première fois en français par Jean-Pierre Lefebvre. Il en signe aussi la préface pour une édition bilingue. C'est toute une langue, tout un programme poétologique qui naît sous nos yeux dans ses poèmes. Jean-Pierre Lefebvre est notre invité avec Bertrand Badiou pour parler pendant une heure de l'œuvre de Paul Celan. On est ensemble dans le Book Club. Bienvenue à toutes et à tous. Cette traduction a paru aux éditions du Seuil, dans la librairie du XXIe siècle. Bonjour Jean-Pierre Lefebvre.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le Book Club et bonjour Bertrand Badiou.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ici à la table du Book Club. Vous aviez dirigé le Cahier de Lerne consacré à Paul Celan, paru en 2020 à l'occasion des 50 ans de sa mort et du centenaire de sa naissance avec Clément Fradin et Werner Vögebauer. Alors il y a la question du titre, je le disais, et immédiatement de cette ville qui est presque un mot sur une carte fantôme ou un mot fantôme sur une véritable carte, Jean-Pierre Lefebvre. Vous discutez de ce que ça a produit de réunir des poèmes sous un titre, de les réunir en recueil. Paul Celan avait déjà l'intuition, voire l'inquiétude. Quelles questions vous vous êtes posées au moment de décider éditorialement de les réunir sous ce titre « Poème de Tchernovitz » ?
Eh bien, c'est venu tout seul, et donc j'ai réfléchi après coup. Et là, c'est peut-être un tropisme personnel, donc, non seulement vers ce lieu derrière les Carpates, mais ce lieu ainsi nommé, quoi, qui a changé de nom, mais qui a gardé un nom qui peut-être parle mieux que tous les autres de ce qu'il a été à un moment de l'histoire, ce qu'il a été pour Paul Celan, indépendamment des commentaires étymologiques qu'on peut faire, ce qui ne nous mène nulle part d'ailleurs, car le préfixe « tcherno » pourrait être considéré comme slave et désignant la couleur noire, mais ce n'est pas le cas. Mmh. Et puis, Witz ne convoque pas de quelconque plaisanterie. Mais, bon, c'est l'ensemble. Quand il a offert le petit carnet dans lequel il avait recopié ce recueil, en le composant avec des titres...
Tel que nous l'avons sous les yeux.
Tel que vous l'avez sous les yeux, sauf que c'était écrit à la main.
Mmh. Par Paul Celan lui-même.
Par Paul Celan lui-même, avec parfois de l'encre rouge, etc. Un jeu sur l'écriture manuscrite. Et donc, la question s'est posée pour elle, c'est-à-dire pour Ruth Kraft, lorsque des années après la mort de Celan, elle s'est trouvée dépositaire de ce bien, de ce cadeau.
Alors, il faut mentionner que Ruth Kraft, c'est la femme à qui il offre le petit carnet de cuir, oui, oui. Paul Celan, et à qui totalité ou partie des poèmes sont comme adressés, Jean-Pierre Lefebvre.
Oui, bon, c'est certainement, disons, un don. Ouais. C'est un don personnel, mais un don personnel qui est en même temps conçu de manière large. C'est-à-dire que il y voit aussi des traces de l'évolution de sa manière, de la nouvelle manière qui va inaugurer quand il aura quitté Tchernovitz et qu'il sera un moment à Bucarest et puis ensuite il commencera une pérégrination qui l'amènera à Paris. Et donc Roodcraft s'est posé la question de l'édition de ses poèmes, dont elle possédait un certain nombre de manière exclusive, unique. Et elle a choisi la sobriété absolue. Elle a traduit, elle a mis « Gedichte » et point. Je ne sais même pas si elle s'est posé la question. Moi, je me suis dit que, étant donné que j'ai toujours été fasciné par ce mot, et que chez Celan, il y a un rapport très
fort. Le mot de Tchernovitz.
De Tchernovitz, oui. Il y a un mot très, très. Un rapport très physique aussi au mot de la langue. Ça m'a semblé adéquat. Ça couvrait la période très exactement. Du jour où il quitte Tchernovitz et n'y revient plus, et Tchernovitz ne revient plus dans son nom. À jamais. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Peut-être en pensant que j'avais trouvé un truc publicitaire.
Maintenant, on voit
après
bien
tout,
que c'est
pourquoi
bien
pas, mais ce n'est évidemment pas le cas. Voilà.
Vous avez dit aussi que finalement, ce mot, il vaut aussi pour le son qu'il est ou pour le mot qu'il est dans l'œuvre de Paul Celan et pour la capacité qu'il a à dire très rapidement le lien de Celan avec cet endroit-là. Est-ce que vous voulez bien, du coup, nous dire ce que vous entendez par là, Jean-Pierre Lefebvre ? Qu'est-ce que ça raconte, Tchernovitz, pour Paul Celan ?
Ça raconte le temps d'avant, mais le temps de la première grande tragédie de son existence, c'est-à-dire le temps de la mort de ses parents et de sa propre mort à quelque chose qu'il avait vécu là dans l'ombre de ses parents. Et c'est un mot tout à fait adéquat d'une certaine manière. C'est presque un concept. Un concept, c'est-à-dire une masse de détermination qui s'agglutine dans un mot dont on ne comprend pas forcément l'origine, mais qui sonne et qui parle. Voilà. Et je vois pas de raison d'en changer.
Voilà. On a dit 1938-1945. Est-ce qu'on peut dire quelques mots biographiques avant qu'on entre dans ce recueil, Bertrand Badiou, 18 ans?
Oui, il a 18 ans, il commence à écrire. Son écriture, on le voit dans les poèmes qui sont là, est très liée à la mer, immédiatement. Et
à la mer Mouta.
Di Mouta, oui. Un des premiers poèmes écrit à Tours, et pour la fête des mers. Et donc, il y a un ancrage immédiat de la poésie de Celan dans cette figure maternelle.
D'ailleurs, il y a deux mentions de la fête des mères, 1938-1939.
Ouais. Voilà. Et 1938, c'est une date absolument déterminante, une année déterminante, parce que Celan part le 8 novembre, il va traverser l'Allemagne, la veille de la nuit de cristal, Reichskristallnacht, donc les pogroms de novembre. Et il aura le pressentiment de ce qui est en train de couver. Évidemment, il est très informé, il sait très bien ce qui se passe en Allemagne depuis quelques années. Et il traverse ses pays, comme il dit à un de ses amis, à qui il écrit une lettre où il dit j'ai vécu des choses absolument extraordinaires pendant ce voyage. Je ne peux pas t'en dire plus, tellement c'est extraordinaire et intense. Et il arrive donc à Paris, passe quelques jours à Paris, avant de se rendre à Tours, où il va faire des études de médecine. Une première année de propédeutique de médecine. Et voilà le début, et le début aussi de sa conscience d'écrivain. On le sent dans les lettres qu'il écrit, ce sont les premières qui sont conservées, et on sent son écriture en train de naître, à la fois poétique, et d'une façon presque plus mûre que dans sa poésie, dans sa prose et dans ses lettres.
Et dans ces lettres-là, quand vous dites sa conscience d'écrivain, c'est qu'il se pense immédiatement comme épousant, alors qu'il fait des études de médecine,
oui,
épousant alors ce destin-là.
Oui, il fait des études de médecine selon la volonté de son père Et ça correspond à peu près à l'itinéraire qu'on attend d'un jeune homme dans son horizon familial et dans son horizon de Tchernowitz, précisément.
Mmh. Il n'est pas seul enfant de Tchernowitz à Tours, d'ailleurs.
Ouais. Mmh. Il y en a plusieurs. Il a des compatriotes qui sont là. Et ils ne peuvent pas faire des études en Roumanie parce qu'il y a un numerus clausus qui empêche là. À Tchernowitz même, il n'y a pas de faculté de médecine, de toute façon. Donc, il a fallu aller à Bucarest ou dans une autre ville, à Cluj ou ailleurs. Mais il choisit d'abord parce qu'il sait très bien le français, comme d'autres de ses compatriotes d'ailleurs. Il sait très bien le français, donc il arrive à Tours et il fait cette première année qu'il réussit. Et la guerre vient interrompre tout et il n'y aura pas de retour à Tours, si je puis dire.
Vous mentionnez qu'il sait très bien le français et je mentionne moi, puisque c'est la notice biographique qui existe ici et ailleurs, qu'il naît dans une famille juive germanophone. Il écrit en allemand, il aura et on lui fera avoir, y compris dans les commentaires, un lien particulier avec la langue allemande. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'inaugure dans son rapport à la langue allemande dans cette période-là de 18 à 25 ans, Bertrand Badiou, Jean-Pierre Lefebvre? Jean-Pierre Lefebvre.
Mais il tient à cette langue. C'est aussi la langue dans laquelle sa mère l'a initié à la poésie. C'est une affaire familiale aussi du côté de la mère.
À ce compte-là, vous parlez souvent d'une langue de mère, Bertrand.
Exactement.
Badiou.
Oui, je préfère ça à une langue maternelle.
Mmh. Oui. Et mais justement. Oui. Et donc l'allemand. Jusqu'à ce que ça devienne la matrice de la pensée de la mort des Juifs. Donc, un objet comme ça, sémantique, difficile à vivre. Il y a chez lui, ça se sent aussi dans son discours, dans son rapport. Il a enseigné l'allemand. Moi, je l'ai eu comme professeur d'allemand à l'école normale dans les années 60. Et bon, il aimait lire un texte. Il aimait lire un texte. Bon, c'est comme ça. C'était quelque chose qui venait de très loin chez lui.
Bien sûr.
Qui avait dû apprendre d'autres langues aussi, dont le roumain, mais qui n'a jamais parlé yiddish. Il y avait une espèce de respect de la langue allemande comme langue de la poésie, etc., comme langue de culture. Et après, il a eu un rapport différent au yiddish à cause de ça. Mais c'est un attachement primordial lié à l'attachement à la mère qui est devenu un élément constitutif de la tragédie qu'a représenté pour lui la politique allemande, la guerre, l'extermination, toutes ces choses qui étaient accrochées à une langue douloureuse. Et là, il en a toujours parlé. C'est quelque chose qui n'est jamais sorti de ce qu'il écrivait, qui a beaucoup évolué. La langue a beaucoup évolué. Mais
la question de son rapport à l'allemand a toujours été un sujet poétique pour Solan.
Un sujet poétique, un sujet de vie d'abord,
de vie.
Un sujet de pensée mais toujours un sujet de souffrance aussi, parce qu'il avait été reconnu poète de langue allemande parmi les poètes et même l'un des plus grands de son temps. Il a entendu cet éloge. Voilà. Bon, le fait que ce soit, c'est toujours resté problématique, du coup. Mais c'est moins sensible, évidemment, dans la période, justement, de Tchernowitz. Parce que y a des choses qu'il ignore.
De la destruction des Juifs d'Europe.
De la destruction des Juifs d'Europe. Il a connu les meurtres, les massacres. Aucun doute qu'il était bien informé, mais disons les formes allemandes industrielles et puis investies dans la culture du temps, c'est quelque chose qui restait à dominer et bon, c'est d'une certaine manière vis-à-vis de la langue, il avait eu gagné aussi une espèce de statut de témoin de ce qui peut arriver à une langue quand ceux dont c'est la langue se comportent comme ceci, font de pareils crimes, de crimes inouïs.
Et je le disais, ce sont des poèmes qui, pour partie, ont été composés dans des camps de travail obligatoires, tandis que les parents sont déportés et tués dans des camps nazis. Alors, on a parlé de son voyage à travers l'Europe à ce moment-là, de Tchernovitz qui recouvre presque conceptuellement le début de sa vie et ce qu'abrite ce mot et ce lieu pour Celan lui-même. À quel moment est-ce qu'il arrive dans les camps, Bertrand Badiou ?
Il arrive en 42. En 42. Et c'est pour lui le moyen d'échapper, en fait, aux persécutions nazies. Et c'est Rootcraft qui joue un rôle déterminant dans, en quelque sorte, ce quasi-choix de se faire enrôler.
Peut-être qu'on n'a pas dit assez de qui est Rootcraft.
Voilà, Rootcraft, c'est une figure féminine qui compte énormément pour lui en tant que, disons, c'est son aînée. De 4 ou 5 ans, elle est comédienne au théâtre de Tchernovitz et c'est une femme mûre et séduit, très fortement séduit par elle. Et donc elle conduit d'une certaine façon, elle a une influence très grande et elle va garder un rapport avec lui toute sa vie. Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui va disparaître de sa vie. Et donc elle le convainc de s'arranger pour être enrôlé dans les bataillons de, disons, de travailleurs de force,
mais
sous autorité.
Consciente que la déportation le menace et l'attend.
Tout à fait. Bien, il a vécu la déportation de ses parents, donc voilà, il sait très bien ce qui va arriver s'il reste. Et donc il fait ce choix en quelque sorte, et il fait ce choix guidé par elle. Et c'est déterminant parce que les poèmes qu'il va écrire dans les camps, il va les envoyer d'abord avant de les consigner dans le petit carnet avec des titres rouges. Eh bien, il va les envoyer sous forme de cartes postales. Et ces cartes postales sont absolument déterminantes pour nous.
À Rootcraft.
Et parce que ces cartes postales portent les cachets des villes où il est interné. Et ça nous permet d'avoir une trace concrète, parce que Celan n'était pas disert là-dessus. Il parlait très peu de cette expérience. Et donc, on connaît ses tribulations, en quelque sorte, et ses déplacements. Il y a 3 camps à l'intérieur de la Roumanie.
Par les cartes envoyées à Route.
Et donc, ces cartes ont été rassemblées et Route les a restituées à Celan. Enfin, c'est une histoire assez complexe. Celan avait le souci de documenter cette époque en même temps, de garder la trace.
Mais de n'en dire pas grand-chose.
De ne pas en dire plus que ce qui est sur les cartes. Et c'est sa manière de faire. Et il y a, c'est pour ça que ces poèmes sont très intéressants dans ce qu'ils ne disent pas, ou de cette réalité, de ces références qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas manifestes. Elles sont tout à fait indirectes.
On y viendra, en effet, la trace qu'il y a de cette réalité matérielle. Qu'est-ce qu'il en reste dans les poèmes de Tchernovitz 1938-1945 ? On parle de la déportation de ses parents. Comment apprend-il leur mort, Jean-Pierre Lefèvre, et à quel moment ?
Ben, il ne les a pas appris tout de suite. Son père est mort du typhus. Avant sa mère. Et sa mère a été assassinée d'une balle dans la tête, qui d'ailleurs est tirée dans le poème « La tour de Sfou hein, » associée au bleu de l'œil du SS. C'est très dur hein, comme formulation. Et bon, de toute façon, il l'a redouté. Depuis qu'ils avaient été emmenés dans les camps, il redoutait que l'issue soit fatale, de la prendre un jour. Et puis, c'est passé par des intermédiaires. On n'est pas absolument sûr, d'ailleurs, des personnes qui ont vraiment transmis le message. Et bon, il a comme pour d'autres épisodes de son existence, et il n'en a pas beaucoup parlé. Il a beaucoup écrit. Dans l'entourage, il y avait chez lui peut-être une pulsion de vie qui a fait que Bon, peu après, bon, ça, le pays s'est libéré, entre guillemets, en 44. Les Allemands sont partis, les Russes sont arrivés, et il a commencé à Auschwitz, on ne connaissait pas encore. Hein. C'était des notions qui n'étaient pas encore parvenues jusque-là. Mais la vie était suffisamment dure et cruelle pour qu'il ait pu redouter très très fortement.
Ses parents étaient déportés en Transnistrie.
En Transnistrie, oui, c'est-à-dire dans des régions assez éloignées de Tchernovitz.
De l'autre côté du Dniestre, voilà, c'est à peu près à 400 kilomètres
voilà,
de Tchernovitz.
De l'autre côté du fleuve, du voilà. Grand fleuve qui coupe le pays. Mmh. Voilà. Et pour l'époque, c'était loin.
Mmh. Oui.
C'était très loin. Mmh. Évidemment, la mort de sa mère est présente, y compris dans cette première phase de sa production poétique, de manière assez discrète. C'est pas la déploration sonore, violente. Et il a choisi des mots. Et ils font partie des poèmes les plus forts aussi, bien sûr.
Dans ces poèmes de Tchernovitz.
Oui. Mm. Mais les poèmes qu'on peut appeler floraux, hein, les poèmes consacrés à des fleurs, pendant son séjour dans les camps, ont pu être interprétés comme des sortes de tromperies à l'égard des inspecteurs de la correspondance qui disaient « Ah oui, bon, ils sont bien gentils, ces poèmes, etc. Mais bon, ce gars-là n'est pas dangereux pour nous. Bon, il travaille. » Il avait sa pelle, hein, la pelle avec laquelle il ramassait les cailloux, enfin, faisait les tâches qu'on lui disait de faire. Dans ce camp de travail, hein, qu'il appelait sa sœur, ma sœur pelle. Hein. Et il a organisé sa survie comme ça. C'est-à-dire, ce réseau secret avec Ruth, les poèmes qu'il lui envoyait, les poèmes qu'il arrivait donc à écrire, il avait gagné suffisamment d'autonomie, de possibilité d'écrire. Tout le monde n'a pas eu forcément dans les camps la possibilité d'écrire des poèmes comme ça, assez régulièrement.
Mais vous parlez aussi d'un réseau secret vis-à-vis du langage, Jean-Pierre Lefebvre. C'est-à-dire que pas seulement le réseau secret au sens où il envoyait ses cartes et ses poèmes à Rootcraft, mais aussi au sens où, parlant de roses, ou parlant de fleurs, ou parlant de lumière, on va y venir,
oui.
Il savait qu'il parlait d'autre chose.
Tous ces mots parlaient, évidemment, pas seulement dans le registre amoureux, mais même dans le registre de la résistance vitale à la situation dans laquelle il avait été plongé brutalement. Et ces poèmes ont eu une fonction et elles ont organisé ses jours, mais on n'en connaît pas le détail.
Et
on peut l'imaginer, mais bon.
Voilà, c'est comme ça qu'on peut les lire aujourd'hui, publiés aux éditions du Seuil, poèmes de Tchernovitz 1938-1945. On va continuer d'en parler avec vous deux, Bertrand Badiou et Jean-Pierre Lefebvre, juste après Soleil Noir de Barbara.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes et je me suis enfuie sous des ciels plus légers, pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres. Et vous ferez le bruit d'un heureux tintamarre, des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, je fais semblant de croire, et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire, je reviens fatigué, j'ai le désespoir. Légère, si légère, j'allais court vêtue, je faisais mon affaire du premier venu, et c'était le repos, l'heure de nonchalance, à bouche que veux-tu, et j'entrais dans la danse. danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir avec l'œil à longue vague de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas, quelque part. La terre s'est ouverte, le soleil est noir. Les hommes sont muets tout là-bas, quelque part. Les hommes sont muets et c'est le désespoir.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le premier poème est un vœu, aujourd'hui dans votre book club, composé entre 1938 et 1945 dans le contexte et l'adresse qu'on a détaillé plus tôt. Les poèmes dits de Tchernovitz sont publiés pour la première fois en français dans votre traduction, Jean-Pierre Lefebvre, pour la librairie du XXIe siècle au Seuil. Et le premier poème porte le titre de vœu, Wunsch, au singulier. C'est un vœu de sang. Le début évoque le sol, les racines des arbres, peut-être quelque chose de vivant en dessous, un filet d'eau argentée que le poète remplace brusquement par le sang, le vœu de sang, Besser wär Blut. Entrons donc dans ce recueil avec vous, Jean-Pierre Lefebvre et Bertrand Badiou, en disant quelques mots de ce premier poème. On a évoqué tout à l'heure donc les cartes postales sur lesquelles il écrit les poèmes depuis les camps de travail. Carte postale qu'il adresse à Rootcraft. On a parlé aussi du petit carnet de cuir sur lequel il écrit de manière, qu'on appelle ça à la main là, avec les titres en rouge. Ce poème veut, Wunsch, il est véritablement en premier dans ce carnet de cuir.
Oui, c'est là ils sont dans le livre, ils sont dans l'ordre du carnet de cuir. Oui, c'était peut-être le tout début, d'ailleurs, de sa rencontre avec Rootcraft, hein, qui était comédienne et qui avait été mariée déjà, qui avait rompu avec son mari et qui vivait sa vie. Mais ce poème y figure déjà, il l'a gardé, alors qu'il pourrait sembler un peu expressionniste à cause de ce sang qui vient couler, etc. Non, il l'a gardé.
Alors peut-être on dit quelque chose de ce sang, veut. Des racines s'incurvent, là-dessous vit sans doute une taupe ou un nain, ou rien que de la terre, et un filet d'eau d'argent, mieux vaudrait du sang. En allemand, Bertrand Badiou, vous voulez le lire ou pas ?
Bien, je veux pas. Es krümmen sich Wurzeln, darunter wohnt wohl ein Maulwurf, oder ein Zwerg, oder nur Erde, und ein silberner Wasserstreifen. Besser wär Blut.
Alors ce sang, qu'est-ce qu'il nous dit en début de recueil, Bertrand Badiou ? Alors,
je dirais que c'est assez énigmatique et ce qui me vient spontanément est le rôle du sang chez Nietzsche et dans Zarathoustra. Et dans l'idée que cela va retrouver plus tard que l'œuvre est écrite avec du sang, en quelque sorte. Donc j'y perçois comme ça, on est en 39. On est en France, il écrit en France. Et donc le sang, c'est à la fois quelque chose dans ses préparations de futur carabin, il fait des dissections.
Parce qu'il étudie la médecine.
Voilà, donc ouais. Donc il est confronté à la matière sang. Et puis le sang, c'est quelque chose qui, disons, accentue la dimension existentielle de l'écriture. C'est comme ça que je le lis. Et plus tard, il va revenir sur cette idée qu'il écrit les poèmes, ses poèmes, avec son sang, avec du sang.
Mais au sens vital ou au sens de la mort ?
Au sens vital et de la mort, c'est inséparable, évidemment. Cette ambiguïté, elle est là déjà.
On va écouter un deuxième poème qui s'appelle « Sommernacht », une nuit d'été, dans votre traduction, Jean-Pierre Lefebvre. Un ver luisant fait mine de baiser le lierre et regarde les pousses nouvelles, mieux cachées. Au vent vient de nouveau une idée de bêtise, met en fouillis les astres et fait peur aux carabes. Blanc tremblement, les bouleaux nus se tassent aisément comme veulent les pins. T Tes pas accroissent le silence, l'éblouissent et s'effacent. Puis un charme s'en vient pour redresser la vie. Dans la fougère, la lune dévoile un souffle timide, l'enroule autour des herbes, l'enfile dans des brindilles. Les bêtes restent en arrêt devant la lueur des champignons, que rougit un poison, plus splendide et discrète. Au vent vient de nouveau une idée de bêtise, met en fouillis les astres et fait peur aux carabes. Un ver luisant fait mine de baiser le lierre. Chut, mes doigts te cherchent, mieux cachés. C'est le poème qui s'appelle « Sommernacht », « Nuit d'été ». On a dit le contexte dans lequel Paul Celan écrit ses poèmes. On pourrait presque oublier le contexte quand on lit ce poème-là. Qu'est un poème de rapport à la nuit, à la nature, à l'érotisme, au mystère ?
Oui.
Jean-Pierre Lefèvre.
Oui, c'est un poème qui fait... Enfin, c'est ce qu'on dit... Parce qu'après, on n'est jamais certain d'avoir trouvé la bonne explication. Mais il fréquentait assidûment un jardin public à Tours, et qui était un jardin accessible qui évoquait sans doute aussi un jardin public de son enfance, et puis c'était un lieu comme ça de pensée. Et moi, j'ai trouvé assez étonnant, chez ce jeune garçon, la maîtrise de l'organisation d'un poème un peu plus long. Mmh.
Il a toujours 19-20 ans, là.
Oui, voilà, ouais. C'est un jeune poète, comme dit l'autre poète moins jeune. C'est un jeune poète. Et il a acquis, ça m'a toujours stupéfait, mais à la limite, nous avons bénéficié, nous, ses élèves, de sa compétence langagière, de son inventivité. Il était quelquefois surprenant aussi quand on traduisait des textes destinés au jury d'agrégation, et lui les traduisait à sa manière. Nous étions assez naïfs de ce point de vue.
Sage.
Et il avait, oui, prudent. Prudent. Et lui osait des choses sans faire de manière, d'ailleurs, de dire, ben voilà, il s'excusait pas, il disait rien, il le faisait. Puis voilà. Et je pense qu'il avait un talent qui venait de loin.
Mais alors justement, ce talent qui vient de loin, vous racontez aussi dans votre préface, Jean-Pierre Lefèvre, qu'il apprend, comme beaucoup, en faisant un peu comme, qu'il a lu Rilke, qu'il a lu Hugo, qu'il a lu plein de gens.
Oui.
Mais de quoi est fait cette maîtrise qui nous étonne à 19-20 ans ? Parce que c'est aussi ça dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des poèmes de jeunesse.
Oui, mais je pense que ce qu'il a acquis assez tôt, c'est qu'il n'avait aucune crainte de l'obscurité.
Mmh.
De la possible difficulté de compréhension.
De l'obscurité au sens de l'opacité.
Oui, de la difficulté à comprendre ce qu'il veut dire.
Ouais.
Un effet de bizarrerie. Hein. Et en même temps, nécessaire. Il a beaucoup pensé à ça. Et alors évidemment, c'était une réflexion qui lui était proposée chaque fois qu'il lisait certains poètes. Son propre florilège est plein de poèmes de cette nature-là, mais ce qui lui a été enseigné à la lecture, ce ne sont pas des techniques d'écriture, c'est une humeur devant la langue, et ensuite dont il ne va jamais se départir, de cette inventivité jusque très tard, et qui certains très tardivement vont lui trouver que il était de plus en plus obscur et redoutait son isolement, sa solitude.
Les autres redoutaient pour lui, mais pas lui.
Non. Non, non, lui, je pense qu'il... ça s'est mêlé aussi à des malheurs, à sa souffrance personnelle. Et donc, il voulait dire les choses. Voilà. Il y a un côté extraordinairement simple dans la démarche. Dans la démarche du jeune poète qui, bon, copie. Ça a été l'exercice principal dans les universités avec Paul Celan, ça a été de comparer ce qu'il écrivait à des modèles connus, à du Rilke notamment. Et ça ne donne jamais rien. Ça reste toujours autre chose.
Ouais, c'est ça.
Y compris les premiers, y compris les poèmes à la mer, dans lesquels il y a de la séduction, évidemment, dans le discours à l'égard de la mer. Et il séduit par la parole. Il n'a pas peur, quoi. Il n'a pas peur qu'elle ne comprenne pas. Peut-être qu'il y a des choses qui l'ont arrêté, sa mère, mais ça ne fait rien. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. C'est une attitude. Et cette attitude, elle a quelque chose de combatif aussi.
Oui, vous parlez de la pulsion vitale.
D'où chez lui, la métaphore du guerrier, de l'archer... avec son signe, il y a même investi une partie de ses superstitions, la métaphore de l'archer justement. Le poète guerrier, c'est un mot qu'il a utilisé.
Il y a un poème qui s'intitule Ein Krieg.
Voilà. Il n'avait pas peur de ça non plus.
On va écouter la voix d'Anne-Marie. Auditrice du Book Club, elle a lu, ou en tout cas elle a commencé de lire ce recueil, traduit par vous, et elle vous adresse une question sur la traduction, justement.
Oui.
Cher Book Club, cher Jean-Pierre Lefèvre, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai commencé ces poèmes de Tchernovitz de Paul Celan. Lire ces poèmes une première fois, puis les reprendre, en faisant des allers et retours avec vos notes en fin d'ouvrage, comme autant de portes qui s'ouvrent, avec cette irrésistible envie de reprendre ses autres poèmes et ses correspondances. Vous avez traduit nombre d'essayistes, de philosophes, de romanciers, de poètes aussi, mais là, avec Paul Celan, c'est comme sentir un étroit compagnonnage, et je me demandais si le traduire impliquait pour vous autre chose, peut-être une attention particulière ou une distance autre. Merci pour votre réponse.
Eh bien, merci Anne-Marie pour cette lecture émue et pour cette question. Jean-Pierre Lefèvre, est-ce que traduire Paul Celan, ce n'est pas pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est... Tout à l'heure, vous avez dit, on avait beau commenter, on avait beau chercher à comparer, c'était toujours autre chose. Est-ce qu'il en va de même pour votre travail de traduction?
Bon, revenir sur la difficulté du genre et le fait qu'il y a évidemment toujours un déficit. Une fois qu'un poème est traduit, il y a un certain nombre de connexions qu'on a vues, qu'on a perçues et qu'on n'est pas arrivé à reproduire dans une langue adéquate.
En même temps, si on s'arrête là, on traduit jamais.
On traduit en se créant un horizon de vigilance qui est déjà pas mal. Et donc, on le fait quand même. Moi, je l'ai eu comme professeur de traduction vers l'allemand. Donc, il y avait une espèce de dette aussi, peut-être, que mes camarades n'ont pas eue, eux. Ils ne se sont pas accrochés à la poésie. Moi, j'ai traîné le sac de toute une série de poèmes dans mes pérégrinations de traducteur, de lecteur. Et cette compagnie m'a rendu confiant dans la lecture de Paul Celan. Parce qu'il intimide. Il intimide beaucoup de lecteurs qui perçoivent quelque chose et qui, en même temps... s'interroge sur ce qu'il considère comme une obscurité.
Et que vous considérez comment? Parce qu'Anne-Marie, j'ai l'impression qu'elle souligne l'idée que vous auriez avec Paul Celan, que ce soit côté poème ou côté correspondance dont vous parliez, une forme de compagnonnage. Est-ce que, avec le temps, ce compagnonnage dont parle Anne-Marie, ça vous garde d'avoir peur vous-même, Jean-Pierre Lefèvre, de l'obscurité? De la sienne?
Est-ce que ça m'en garde? Non, puisque je le fais quand même. Mais il est clair qu'il y a une notion qu'il développe peu lui-même, hein, c'est celle de travail. Le travail, c'est un travail que de s'approprier la parole d'un autre. C'est un travail d'écoute. Hein. Un psychologue écoute un peu ce qui sort de la bouche de quelqu'un et construit avec ça des éléments de discours, puis des éléments de pratique aussi, de soins, que sais-je. Et donc, je crois d'ailleurs, les autres traducteurs de Paul Celan, on constate quand même un peu la même chose, c'est que il peut s'acquérir à force la conviction que il y a une sortie quand on commence un poème. Même il y a des poèmes qu'on peut estimer cryptiques, hein, qu'il faut vraiment il faut essayer de trouver quelquefois, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a là derrière, quel est l'épisode, y compris des poèmes qui ont l'air ludiques, il y en a quelques-uns. Mais
il y a une sortie, c'est beau comme idée.
Pardon ?
Il y a une sortie, c'est beau comme idée.
Oui, il y a une sortie sur où il est possible de respirer, poétiquement avec le texte, tout en sachant que on s'est peut-être essoufflé, mais finalement, ce qui est sorti, c'est assez près de ce qui pouvait sortir. Les choses étant ce qu'elles sont. Il est évident qu'il y a une intimidation primordiale avec lui, c'est qu'il a réussi de tels chefs-d'œuvre, vraiment dans l'histoire de l'humanité, de tels chefs-d'œuvre dans la traduction des poèmes d'autrui, qui étaient les seuls pour lesquels il a fini par conserver les formes aussi, les formes les plus difficiles à récupérer, que en même temps, il aurait pu intimider donc le traducteur. Et en même temps, il a cette vertu de, sous réserve qu'on fasse justement le travail d'inquisition, de réflexion, de sans précipitation, etc., de fournir le culot nécessaire.
C'est ce que j'allais dire. J'ai plutôt l'impression que ça se situe du côté de l'incitation plutôt que du côté de l'intimidation.
Oui, mais ça n'est jamais un défi formel, quoi. Ah, je vais le prendre celui-là, c'est-à-dire je vais passer la barre, quoi, hein, et sans frotter. Non. Et alors, ça rend... C'est quand même un poète moderne. Hein. Et donc, c'est ce travail qui caractérise le... qui caractérise cette façon de travailler, qui caractérise la poésie moderne, la poésie contemporaine. Et si la poésie doit continuer à être lue, citée, encouragée, imitée, il faut construire aussi cette consolation a priori, quoi.
Vous parlez de chefs-d'œuvre Jean-Pierre Lefèvre, parmi lesquels Todesfuge, Fugue de mort, qu'on évoque et à laquelle on pense quand on pense à Paul Celan. Vous évoquez dans la préface l'idée qu'il y aurait les germes de ce grand poème dans les poèmes de Tchernovitz. On va écouter ici Paul Celan lui-même lisant Todesfuge et juste après, en français, Anne-Lise Heimburger.
Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete,
die Cheveux d'or. Des cheveux cendres, sulamites, nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Il crie « Enfoncez plus vos bêches dans la terre, vous autres, et vous chantez, jouez. » Il attrape le fer à sa ceinture, il le brandit, ses yeux sont bleus. « Enfoncez plus les bêches, vous autres, et vous jouez encore pour qu'on danse. » Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi et le matin, nous te buvons le soir, nous buvons et buvons. Un homme habite la maison, Margaret, tes cheveux d'or, tes cheveux cendres, sulamite, il joue avec les serpents, il crie « Jouez plus douce la mort est un maître d'Allemagne, il crie « Plus sombre les archets et votre fumée montera vers le ciel, alors vous aurez une tombe dans les nuages où l'on n'est pas serré ». Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi, la mort est un maître d'Allemagne. Nous te buvons le soir et le matin, nous buvons et buvons, la mort est un maître d'Allemagne, son œil est bleu. Il t'atteint d'une balle de plomb, il ne te rate pas. Un homme habite la maison, Margaret, tes cheveux d'or, il lance ses grands chiens sur nous, il nous offre une tombe dans le ciel. Il joue avec les serpents et rêve, la mort est un maître d'Allemagne. Tes cheveux d'or, Margaret, tes cheveux cendres, sulamite.
Dein goldenes Haar, Margaret, dein aschenes Haar, sulamite.
Et on termine avec la voix de Paul Celan et le poème légèrement coupé. Vous dites l'un et l'autre que on ne peut pas ne pas penser à Todesfuge et Fugue de mort, y compris quand on lit Tchernovitz, les poèmes de Tchernovitz 1938-1945. Il fait une première lecture de ce poème. On est en 44, c'est ça, non?
Oui, en tous les cas, disons en 44 ou plutôt en 45, il y a un témoignage qui est un témoin qui dit qu'il a entendu Paul Celan dire ce poème devant Herrengasse, près de l'église orthodoxe. Il aurait prononcé pour la première fois ce poème. Et donc, d'une certaine façon, il appartient à ce corpus. Mmh. C'est ça qui est étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que la première parution de ce poème est en langue roumaine. Il est traduit par un de ses amis, Petru Solomon, qui le traduit en roumain avec son aide. Et il paraît dans un journal roumain, d'abord en traduction. Mm. Donc c'est un destin très particulier.
Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il figure et ne figure pas dans ces poèmes de Tchernovitz. Il y figure d'un point de vue temporel, mais n'y figure pas parce qu'il n'est pas reporté dans le fameux petit carnet de cuir offert à Ruth Kraft.
Tout à fait, et parce qu'il y a une interrogation sur la date de composition de ce poème. Et même, disons, il y a des personnes bien intentionnées qui ont dit que ce poème aurait été écrit bien plus tard. Et donc, il y a comme ça une...
Mais comme fini bien plus tard ou...
Disons même écrit bien plus tard. Avec l'idée que Celan aurait repris des motifs d'un de ses camarades, Emmanuel Weissglass. Mmh. Et donc, il y a derrière, en germe, une accusation de plagiat. Mmh. Voilà. Et tout ça est une opération fabriquée. Les philologues peuvent le montrer. Enfin bon, on sait que Celan a eu des informations qu'il a fait entrer dans ce poème par Izvestia et par le Pravda, qu'il a lu, et que là il y avait des descriptions du camp de Lemberg, et que c'est ce qui lui a permis de donner des informations très précises, entre autres ces informations les musiciens qui accompagnent les victimes, etc. Donc tout ça est décrit dans cet article. Et donc ce serait la source première de, et que le prétendu poème qui aurait été écrit avant est de 44, et à ce moment-là, on n'a pas ces informations, tout simplement pas.
Et donc, le fait qu'on puisse lire ici ces poèmes de jeunesse, donc 1938-1945, il a entre 18 et 25 ans, Bertrand Badiou, et qu'on parle, pour reprendre vos mots, Jean-Pierre Lefebvre, d'une véritable mise en germe d'un programme poétologique, je reprends les termes que vous utilisez dans votre préface, qu'est-ce qui, à la lecture de ces poèmes de jeunesse, nous indique, on va dire, quelque chose qui irait vers Todesfuge?
Disons une tenue et une certaine qualité d'obscurité, précisément. On sent qu'il y a une réalité derrière qui est là. qui est, et cette réalité, elle motive, elle soutient le poème, elle soutient le projet. Donc il y a pas une intention,
la réalité égale la déportation de ses parents, l'assassinat de sa mère,
tout à fait, tout ça. Et je veux pour preuve quelque chose qui est assez émouvant, qui est dans un poème qui s'intitule Herbst. Et là dedans, il y a une fleur qui apparaît. Je le dis juste en allemand. Hier und drüben dunkeln nun Antlitz und Aster. Doch Wimper und Lied vermissen den Augentrost. En français, dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, ici et là-bas s'assombrissent maintenant visage et aster. Mais si les sourcils regrettent le délice des yeux. Le délice des yeux est un nom populaire en français pour cette plante qui s'appelle Augentrost. Alors, vous me direz, Augentrost, ça veut dire littéralement consolation des yeux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans une lettre de septembre 1962, Celan écrit à Gisèle, Celan, à sa femme, il lui confie ce souvenir. Il dit, j'ai vu la petite Augentrost. Tu sais, je l'ai rencontrée dans les camps. Et c'était...
La fleur.
La fleur. Et donc, vous voyez, la fleur, elle est, et elle veut dire littéralement consolation des yeux. Elle est aviatique. Donc, vous voyez, cette petite fleur qui apparaît comme ça, comme tout à fait innocente et dépourvue de lest historique et existentiel, elle est complètement lestée. Et c'est ces informations que Celan va délivrer très, très précautionneusement et méticuleusement. Il va le faire au fil du temps et il montre par là même que ces noms de fleurs sont ancrés dans une réalité.
Oui, presque dans le fameux sol par lequel commence le recueil et sous lequel il y a, à la place du filet d'eau argenté, du sang.
Et il y a aussi un terreau qui est le terreau populaire de légende, de toutes ces références culturelles qui nous manquent. C'est pour ça que les poèmes sont extrêmement difficiles à lire.
Mais en vous écoutant, Bertrand Badiou, je me dis, mais finalement, c'est heureux presque de les lire aujourd'hui en 2026, parce que c'est comme si on était un peu plus armés pour pouvoir lire ces poèmes de jeunesse de Paul Celan.
On l'est, et d'une certaine façon, on peut considérer que Celan n'a cessé de réécrire ces poèmes.
C'est-à-dire cela que voulait dire.
Cela, et on pourrait montrer, c'est extraordinaire à quel point. Par exemple, un poème comme Mein Krieger, ce guerrier, on va le retrouver dans les poèmes de 1967.
Ah, c'est fou, continuellement, ce serait profondément matriciel.
Totalement, totalement. C'est le terreau. C'est le terreau sur lequel va se développer son œuvre. Il est encore Paul Henschel.
Ouais.
Et la transformation va se faire. Tel Jacob, une fois qu'il a franchi le gué et qu'il devient Israël. Hein. C'est cet épisode très important de la Genèse qui est déterminant, puisque c'était le texte de la Bar Mitzvah, de la Paracha, le texte qu'il commentait le 2 décembre 1933. À Tchernovitz, à la synagogue, et c'est ce texte qui est absolument déterminant de sa vocation.
L'histoire de sa vocation, c'est-à-dire du nom qui va changer.
Voilà. Et du nom qui va changer. L'histoire a luxé sa hanche. L'histoire a luxé sa hanche, et il ne va plus s'appeler Paul Celan. Et Paul Henschel, il va s'appeler Paul Celan. On peut le lire comme ça. Et cette histoire de Jacob va se retrouver également disséminée dans nombre de poèmes après. Donc, il y a un avant, cet avant, il ne sait pas, tout ça, ce serait lui prêter des intentions. Il est en train de produire quelque chose qui est la base de son écriture. Il va abandonner cela, il va l'abandonner physiquement, parce qu'il ne va pas prendre ses poèmes, il ne va pas pouvoir les emporter à l'ouest, il va les laisser là-bas. Et c'est très intéressant ce rapport à ce lest qu'il a laissé là-bas. Et dans cette absence, c'est comme si il le reconstituait mentalement dans sa nouvelle production, dans son nouvel. Et c'est absolument sidérant à quel point.
D'où l'immense pertinence de les réunir sous le titre de poème de Tchernovitz.
Tout à fait, tout à fait. Le lieu et le temps. Tchernovitz, c'est un lieu-temps.
Dans votre introduction, Jean-Pierre Lefebvre, vous semblez dire que Todesfuge, en tout cas, vous dites considérer, virgule, à contresens, virgule, comme le chef-d'œuvre de son œuvre, et il ne faudrait pas, donc on vient de dire tout ça avec Bertrand Badiou, qui est extraordinairement fort, mais il ne faudrait pas imaginer que depuis les poèmes de Tchernovitz, 1938-1945, il y aurait un horizon qui serait Todesfuge.
Oui, il s'est un peu méfié lui-même de cette renommée très très forte de ce poème qui a d'abord été traduit et qui s'appelait non pas Fugue de mort, mais Tango.
Oui.
Et la petite différence du passage du tango, donc des cadences du tango, aux cadences de la fugue. C'est la marque d'une volonté d'inscrire la genèse de ce qui est arrivé, comme on disait, ce qui s'est passé.
Égal l'assassinat de sa mère, plus la Shoah.
Dans la culture allemande. Dans une culture qui a joué du Bach le dimanche pendant des années, etc. Et il en a fait une fugue, alors que du simple point de vue métrique, ça peut difficilement correspondre à une fugue. Bon, mais il a d'ailleurs assez apprécié l'hypothèse aussi de comparer un certain nombre des textes qu'il avait écrits à des moments dans une composition musicale. Par exemple, la fameuse strette, c'est-à-dire un moment où toutes les choses convergent et dans un long poème. Dès le départ, disons, l'immense hospitalité de la langue, de sa langue, de la langue maternelle, paternelle, sa langue, a y compris un travail de rénovation, de création de nouveaux horizons sémantiques, etc. Constamment, Jean Bollack parlait de la réfection de la langue. C'est un assez bon terme. Il s'est engagé dans cette voie avec la conscience qu'il en était capable. Parce que c'est pas rien, hein, de refaire une langue.
Vous parlez, Jean-Pierre Lefebvre, de la dimension musicale et vous parliez, vous, Bertrand Badiou, du fait d'être lesté. Vous évoquiez l'un et l'autre avant l'antenne, Winter, un poème qui s'appelle donc Hiver dans votre traduction, Jean-Pierre Lefebvre. On va terminer avec ça. Et c'est là que l'on voit peut-être le seul moment d'un point de vue littéral puisqu'on entend le mot baraque. La neige tombe, mère, maintenant sur l'Ukraine. Couronne du sauveur en mille grains de chagrin. De mes larmes d'ici, aucune ne t'atteint. De signes de jadis, un seul, fier et muet. Nous mourons déjà ? Que ne dors-tu, baraque ? Ce vent hante l'espace aussi comme un spectre effaré. Sont-ils donc bien ceux-là qui gèlent dans le mâche-fer les cœurs des étendards ? Les bras des candélabres. Je suis resté le même dans les ténèbres. Le doux libère-t-il, le dur met-il à nu? N'émane plus pour moi de mes étoiles que le son déchiré des cordes d'une harpe affreusement sonore. Parfois, une heure de rose s'y suspend un instant, qui s'éteint. Une, toujours une. Que serait-ce, mère, croissance ou bien blessure? Si je sombrais aussi dans les neiges d'Ukraine. D'avoir été avec nous, Jean-Pierre Lefebvre, pour évoquer les poèmes de Tchernovitz 1938-1945, parus dans une édition bilingue avec une traduction, une préface et des notes évoquées d'ailleurs par Anne-Marie tout à l'heure. C'est vrai qu'elles sont très précieuses, ces notes en fin d'ouvrage aux éditions du Seuil dans la librairie du 21e siècle. Merci. Merci à vous, Bertrand Badiou, d'avoir été avec nous pour évoquer ces poèmes de Tchernovitz. Je disais, entre autres, qu'on peut se reporter au Cahier de Lerne que vous avez dirigé en 2020 et à bien d'autres publications qu'on mettra sur la page du bookclubfranceculture.fr. À la réalisation aujourd'hui, c'était Daphné Leblon, au son d'Aliyaha. Un immense merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier aujourd'hui à Cyril Marchand.